Les grands titres de ce jeudi 10 août, on fera le point sur les militaires français renversés à Levallois-Perret. Hier, un homme a été interpellé. La Corée du Nord menace d'attaquer la base américaine de l'île de Guam. En Australie, le vote postal sur le mariage pour tous. Et l'ancien Premier ministre conservateur Tony Abbott demande aux gens de voter non s'ils ont des soucis concernant la liberté religieuse et la liberté de parole. En France, tout d'abord, avec la police française qui a arrêté l'homme au volant d'une BMW qui a percuté 6 soldats à Paris hier alors qu'il commençait une patrouille dans la banlieue de Levallois-Perret. On écoute Gérard Collomb, le ministre français de l'Intérieur.
Ce matin à 8h06, une voiture qui était dans le quartier est arrivée vers le dispositif. Elle roulait doucement et à 5 mètres à peu près des militaires, elle a accéléré de manière à pouvoir les percuter. Ça veut dire que la menace reste aujourd'hui extrêmement importante et que nos forces de sécurité, nos forces militaires sont toujours prises pour cible.
Gérard Collomb, le ministre français de l'Intérieur. On écoute maintenant la ministre des Armées, Florence Parly, qui est allée rendre visite aux soldats à l'hôpital.
Je voudrais condamner cet acte extrêmement lâche qui a été commis ce matin contre les forces Sentinelles qui, comme vous le savez, est une opération dont l'objectif est d'assurer la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national. Cette atteinte qui a été portée à nos soldats est bien la preuve que la menace continue d'être présente et que donc la vigilance est de mise et cette opération Sentinelle est plus que jamais nécessaire.
Voilà la ministre française des Armées. On écoute maintenant Laetitia qui est du mouvement des femmes de militaires.
C'est ça le pire en fait, c'est qu'on est plus inquiète quand ils sont sur le territoire national que quand ils sont à l'étranger. Il faut le faire ça quand même. Ils ont une cible dans le dos et de plus en plus. Il faut voir dans l'état dans lequel ils sont logés. On a des hommes qui sont mangés par les punaises de lit. C'est des militaires mais ça reste des hommes, c'est des maris et des pères. Et nous on n'a pas envie d'avoir des centaines de cercueils sur la place des Invalides. Parce que ça malheureusement c'est ce qui va arriver.
Voilà Laetitia qui est du mouvement des femmes de militaires en France. Et maintenant on revient sur les événements d'hier avec le reportage de Raphaël Rennes pour Radio France Internationale.
Toutes les rues sont bouclées autour de la place de Verdun. C'est ici, à deux pas de la mairie de cette ville huppée du nord-ouest parisien, que les faits se sont produits à 8h15 ce matin. Roselyne Bayeux habite tout près.
Mon mari a entendu des sirènes anormalement. Je me suis mise sur mon balcon parce que j'habite à 100 mètres. Et vu la multiplicité des voitures de pompiers et des ambulances, je me suis dit, il doit quand même se passer quelque chose de grave.
Quelques instants plus tôt, un homme à bord d'un véhicule sombre de marque BMW fonce sur une patrouille. Trouille de soldats de l'opération Sentinelle devant l'immeuble où les militaires sont basés. Laetitia Benizri vit dans le bâtiment d'en face.
On a vu un déploiement de voitures, de pompiers, du SAMU, de Vigipirate aussi. Et on a vu les blessés être embarqués, soit dans une civière pour celui qui était le plus sérieusement blessé, soit en fauteuil roulant ou à pied pour les deux blessés plus légers.
L'agresseur parvient à prendre la fuite. 6 soldats sont blessés, dont 3 grièvement. Jean-Claude Veillant habite dans l'immeuble. Pour lui, il s'agit d'un acte délibéré.
Il ne peut pas être venu par hasard. C'est impossible. Il faut qu'il connaisse. Hein. Et même les heures, il faut qu'ils connaissent. Parce que groupés comme ça, ils sont groupés quand ils s'en vont en opération.
Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête.
Raphaël Rennes pour RFI. La Corée du Nord déclare avoir un plan pour attaquer Guam, la base américaine dans le Pacifique. Le secrétaire d'État américain est arrivé sur Guam et rassure les Américains qu'il n'y a pas de danger imminent. Il avait un message du président Donald Trump.
I think the president... What the president is doing is sending a strong message to North Korea in language that Kim Jong-un would understand because he doesn't seem to understand diplomatic language. And I think the president just wanted to be clear to the North Korean regime that the U.S., you know, unquestionable ability to defend itself, will defend itself and its allies. And I think it was important that he deliver that message to avoid any miscalculation on their part.
C'était Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, déclare que les sanctions diplomatiques et économiques sont les meilleurs moyens de baisser les tensions.
I have been in constant contact with Secretary Tillerson. In fact, I spent a day with him on Monday in Manila. We spoke about North Korea. Our policy has not changed. Our collective strategy has not changed. And that is to bring pressure to bear on North Korea through diplomatic and economic means to force it to change its behaviour. That continues to be our collective strategy.
Julie Bishop, la sénatrice Penny Wong, porte-parole des affaires étrangères pour l'opposition fédérale, est d'accord.
I mean, the path to resolving this must be de-escalation, dialogue, and the reduction of tensions. And the solution is obviously for North Korea to respond to the international community's pressure, including the most recent round of UN Security Council resolutions.
La sénatrice Penny Wong du Parti travailliste, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, fait appel pour une solution diplomatique à la crise.
The Secretary General remains extremely concerned by the ongoing situation, and he's troubled by the increase in confrontational rhetoric that we've seen. The Security Council passed a resolution unanimously over the weekend, and we obviously reiterate our welcome all initiatives that will help to de-escalate tensions and welcomes a return to diplomacy.
Voilà, c'était le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. On écoute maintenant l'analyse de Juliette Morillo, qui est spécialiste des deux Corées. Elle est sur RFI.
Je pense qu'on a franchi une étape en décidant de se démarquer de la patience stratégique de Barack Obama. Trump a en effet été beaucoup plus loin que jamais les États-Unis n'étaient allés. Et là, on est véritablement avec quand même plusieurs puissances mondiales en jeu. La Chine, seconde puissance mondiale, le Japon, quatrième, vous avez la Corée du Sud, vous avez les États-Unis, la Russie. Tous ces interlocuteurs montrent que les tensions sont à un point extrême, d'autant que la Corée du Nord n'abandonnera pas et ne renoncera pas. Je ne pense pas que ce soit cette politique belliqueuse des États-Unis qui fera avancer quoi que ce soit, parce que Pyongyang, ne l'oubliez pas, se sent menacé directement par les États-Unis. Et finalement, ces bruits de bottes américains ne font que renforcer Kim Jong-un vis-à-vis de sa propre population et renforcer son image de « je vais vous défendre contre l'ennemi américain ». Donc c'est une sorte de cercle vicieux qui, à mon avis, attise le feu plutôt qu'il ne l'apaise.
Juliette Morillo, spécialiste des deux Corées sur RFI. Aux États-Unis, le FBI a perquisitionné la maison de l'ancien manager de la campagne électorale de Donald Trump dans le cadre des enquêtes sur les allégations d'interférence de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016. Des documents ont été saisis de la maison de Paul Manafort dans l'État de Virginie, près de la capitale Washington. La commission électorale au Kenya rejette les informations que ses ordinateurs ont été piratés. Le principal candidat de l'opposition, Raila Odinga, rejette les résultats provisoires. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, a une avance considérable. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, déclare qu'une enquête aura lieu.
The system, whether it's hacked or not, those are aspersions which have been cast. As a commission, we shall have our own investigative system to kick in. We shall come up with a methodology as to finding out whether or not those claims are correct.
Voilà le président de la commission électorale au Kenya. L'envoyé spécial de RFI est sur place, Sébastien Nemeth. Reportage.
Dès le début de la journée, la situation s'est tendue. Alors que le décompte était toujours en cours, Raila Odinga a remis en cause l'ensemble du processus électoral. Il a affirmé que des pirates informatiques s'étaient infiltrés dans le système de la commission électorale. Selon Raila Odinga, ils auraient utilisé l'identité de Chris Musondo, l'ancien responsable de l'infrastructure informatique de l'IEBC, sauvagement assassiné il y a 10 jours dans des circonstances troubles. Ce piratage aurait permis aux hackers de manipuler les résultats pour favoriser Uhuru Kenyatta. Raila Odinga a alors rejeté les chiffres offre, dénonçait les élections, les comparant à une farce, à un désastre. C'est alors que ses partisans ont commencé à sortir dans la rue pour protester, entraînant des heurts avec les forces de l'ordre, notamment dans les fiefs de l'opposition à Nairobi, comme le bidonville de Mataré. Plusieurs centaines de manifestants ont fait face à la police, criant « No Raila, no peace », pas de Raila, pas de paix. Des affrontements ont également éclaté dans l'ouest, autres bastions de l'opposition, comme Kissi et Kisumu, des zones où la crise post-électorale de 2007 avait été particulièrement meurtrière. En fin de journée, la commission électorale a fermement démenti tout piratage de son système, assurant les Kenyans qu'il était solide. L'IEBC a demandé de la patience avant les résultats finaux qui seront donnés lorsque les résultats numériques mis en ligne auront été comparés avec les procès-verbaux en cours d'examen.
Sébastien Nemeth pour RFI. En Australie, le vote par voie postale sur le mariage pour tous avec l'ancien Premier ministre Tony Abbott qui part en campagne contre. Il demande aux gens de voter contre s'ils ont des soucis concernant la liberté religieuse et la liberté de parole. Le sénateur Darren Hinch du Justice Party critique Tony Abbott qui, selon lui, fait des commentaires absurdes.
I'm still anti-plebiscite. If they put the postal vote up at 122 million, I would have voted that down too. But as it was, it got killed before it even got into the starting block, so to speak. The other thing is that Tony Abbott to say that if you believe in freedom of speech, vote no. What the hell has a couple getting married got to do with your freedom of speech?
Voilà le sénateur Darren Hinch. Les Verts en Nouvelle-Galles du Sud critiquent la loi qui permet aux policiers de démanteler les tentes où habitent les sans-abri de Martin Place à Sydney. Comme c'est une terre de la couronne, la police a le droit de leur demander de partir. Écoutez la réaction du député des Verts, David Shoebridge.
As early as Thursday afternoon, the early hours of Friday morning, the police will be able to move in and start arresting homeless people, start confiscating their property, destroying their property, and moving them on from the heart of Sydney. And that is a really appalling way to deal with a homelessness crisis.
Voilà la réaction du député des Verts, David Shoebridge. En Colombie, un juge a rejeté le plaidoyer de l'Australienne Cassandra Sainsbury, âgée de 22 ans, qui a été arrêtée en Colombie en avril dernier, accusée de passer en contrebande près de 6 kilos de cocaïne. Elle fait face à une peine de prison de jusqu'à 30 ans. Avant de passer à la météo, on parle de la sécheresse qui frappe presque toute la France ces jours-ci et des mesures de restriction sont en place. Les agriculteurs, cependant, innovent, comme nous l'explique Anne Verdaguet pour RFI.
À Breteuil-sur-Iton, dans l'Eure, la ferme des frères Mulet est en pleine récolte. Des concombres, des haricots, des aubergines et des tomates bien juteuses sous serre et sur un hectare de culture plein champ. La vague de chaleur est passée par là, mais la casse a été évitée. Pour se prémunir contre la sécheresse, ces pionniers expérimentent de nouveaux moyens de retenir l'humidité.
Nous, notre technique, c'est de toujours couvrir le sol. Donc ça soit du paillage de paille ou du paillage plastique, des bâches tissées, des choses comme ça. Donc en fait, on coupe l'évaporation du sol. Donc là, on voit les bâchages tissés dans lesquels on a planté les aubergines. Les concombres, ils sont directement dans la paille, comme les haricots.
Pour Daniel Mulet, cette agriculture dite de conservation ne nécessite pas de labourage, pas de travail de la terre, enrichie en matière organique. Les légumes y poussent à l'abri du stress hydrique. Du coup, l'arrosage est lui aussi limité.
Nous, là, ici, on n'a que du goutte à goutte. Dans l'eau de serre, on a de l'aspersion. Donc là, on peut arroser par les feuillages. Mais la plupart des cultures s'en sortent pas mal juste en goutte à goutte. Et le goutte à goutte, en termes d'économie d'eau, c'est encore plus efficace.
La mare à quelques pas du champ permet de récolter l'eau de pluie, un système qui se suffit à lui-même et qui permet d'être moins dépendant des caprices de la météo.
Voilà le reportage d'Anne Verdaguet pour RFI. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximal de 16 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 18, Hobart 17, Canberra 16, Sydney 23, Brisbane 25, Cairns 28, Darwin 32 et à Alice Springs un maximal de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi. Les militaires français renversés à Levallois-Perret hier et un homme a été interpellé. La Corée du Nord menace d'attaquer la base américaine de l'île de Guam dans le Pacifique. Fin de ce journal.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench